Je ne portais plus le nom de mon père. J'étais sans famille. J'étais sans nom. J'étais sans visage. Ainsi, j'étais vivant, car je n'étais plus rien.
A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
On parle ainsi des Khmers rouges et du 1 700 000 morts qui a défiguré le Cambodge de 1975 à 1979. Qui nous montre ce qu'on ne peut raconter lorsqu'on est un survivant du Kampuchéa démocratique. C'est toujours un moment particulier que de recevoir Ritipan, architecte d'une œuvre cinématographique qui reconstitue une béance de l'histoire de son pays, à savoir l'avènement d'une année zéro avec l'éradication programmée par Pol Pot d'un nouveau peuple. Interné dans un camp de travail à 11 ans, Ritipan est devenu l'homme des images. Il garde celle-ci en mémoire, par exemple. L'image de la Bibliothèque nationale de Phnom Penh, vidée par les Khmers rouges, avec des cochons bousculant les chaises et piétinant les épluchures. Les cochons ayant remplacé les livres, les hommes ayant remplacé les cochons. À l'occasion du 40e anniversaire de la chute des Khmers rouges, En sol majeur propose une plongée dans l'élimination, son livre, et dans l'exil et la France est notre patrie, deux de ses documentaires qui sortent en DVD. Bonjour Ritipan.
Bonjour.
Que sont devenus vos 13 ans ?
Mes 13 ans restent comme un trésor. Parce que en même temps, c'est une date assez douloureuse, parce que c'est là que j'ai perdu ma famille, que la famille commence à être disloquée, que je perde ma maison. Je pense que la maison pour un enfant, c'est très important, c'est tout son univers. Mais c'est là aussi que je dois affronter l'innommable.
Mais pourquoi vous dites alors que c'est un trésor, ces 13 ans ?
Trésor parce que c'est les petites choses de la vie, des visages, des gestes, des odeurs, les chansons de ces années avant Khmer Rouge que j'ai accumulées. Je garde comme un trésor très cher au fond de moi. Et finalement, c'est ces petites choses très intimes qui m'ont aidé à vivre, en fait, qui m'ont sauvé.
Alors, on va mettre vos images en mots. Comme seule la radio sait le faire. Et on va ouvrir avec Exil, réalisé et présenté à Cannes en 2016. Première question, sur quelle image s'ouvre votre film ?
Wow, je ne sais plus.
Ah bon ?
je ne sais plus du tout.
Vous êtes le roi de la trace, vous avez effacé cette image.
Non, pas du tout. J'ai des bribes d'images, mais j'ai une image qui me frappe. Peut-être c'est la lune qui rentre dans la maison, dans la cabane. Et ça, c'est une image qui me reste dans la mémoire.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez l'international en Khmer, Ritipan ?
Mais je trouve que c'est une belle chanson quand même, au fond. C'est une mélodie qui garde et puis qui draine avec lui toute une lutte. Et puis, c'est quand même debout les damnés de la terre, quoi. Ce qui est terrible à presque la plupart des révolutions, il mange ses propres enfants. C'est ça qui est terrible.
Alors, dans cet exil, dans votre exil, vous avez installé un jeune homme vêtu de noir, debout, couché ou faisant du feu dans une cabane en bambou. Il est frôlé de temps à autre par une main féminine ou maternelle, par des corbeaux en papier, par des planètes et par cette fameuse lune dont vous parliez. Et tout en regardant, un peu comme dans un rêve, des images d'archives du Cambodge des années 60 et du régime des Khmers rouges, une voix off, sa voix nous parle.
Les hommes rêvent de révolution. La révolution rêve d'elle-même. Il n'y a pas de spectateur innocent. J'ai connu des slogans qui étaient si beaux, si simples, qui semblaient si justes dans leur beauté, d'une telle puissance. Je les ai répétés tant de fois. J'ose à peine les dire. Dans leur netteté, vous seriez tenté d'y croire. Il faut vivre avec une seule idée. C'est la révolution. Un poème d'une langue pure, dont chaque phrase coupe. Embrassez la condition prolétarienne. Engagez-vous à sacrifier votre vie pour accomplir le travail du parti. L'encart.
Paix comme paysage intérieur.
Voilà les premières images, oui. Si j'ose dire, à la radio, et les premiers mots de ce documentaire Exil Ritipan. Qui est-ce qui parle de révolution prolétarienne dans cette voix off?
Moi,
vous?
Je parle, oui. C'est censé représenter moi, avec toute ma naïveté, aussi tous mes rêves, aussi toute ma souffrance aussi. Parce qu'on croit toujours, même aujourd'hui, je crois toujours qu'une révolution est nécessaire.
Ah oui?
Oui, je ne suis pas du tout...
Où ça?
Partout. Quand on laisse le système ultra-capitaliste s'installer trop à l'aise, ça ne marche plus. Donc, on ne peut pas avoir un pays riche et avoir des pauvres qui touchent, je ne sais pas, très peu de salaire par rapport au niveau du pays. Quoi.
Donc, vous avez toujours un peu l'âme révolutionnaire et je sais que vous avez une fascination pour un certain Saint-Just. Pourquoi oui. Cette fascination pour ce, je le rappelle, là, c'est la Révolution française, ce révolutionnaire surnommé l'archange de la terreur, qui a d'ailleurs été guillotiné. Hein.
Oui, mais avant d'être la terreur, on avait un rêve. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la révolution mange ses propres enfants. Si vous prenez Robespierre, c'est quelqu'un qui a dit que si vous payez les impôts dans un pays, vous avez un droit de vote. Maintenant, plein d'immigrés qui payent les impôts en France, ils n'ont pas le droit de vote, par exemple. C'est qui donne la citoyenneté aux Juifs, qui, par exemple, fait des taxes sur les transports des grains opérés par les grands seigneurs. On aurait pu faire pareil avec les taxes de transactions financières aujourd'hui. Bon, c'est la anticolonisation, anti-esclavage. Ça, c'est aussi Robespierre.
Oui, mais est-ce que vous pensez que les idées, les plus belles idées révolutionnaires, peuvent faire l'économie de la terreur?
Je ne sais pas, mais il faut peut-être expliquer plus, il faut peut-être évoluer, il faut peut-être balancer un peu les pour et les contre à un certain moment. Là, j'ai fait un voyage avec un jeune Congolais qui m'a dit que non, en Afrique, moi, il me faut la démocratie comme ça ne marche pas. Il faut un chef, un dur, qui impose des ordres. Peut-être il faut penser à démocratie spécial pour chaque pays, chaque endroit, j'en sais rien, mais je suis contre ça, moi. Pour moi, on est libre, on n'est pas libre. Mais vous savez, plein de gens qui se disent anti-marxistes ou marxistes qui n'ont jamais lu Marx.
Quelle est la fonction de cette cabane en bambou dans laquelle vous enfermez votre personnage qui est votre alter ego, Ritipan?
Le cabane, c'est un peu cet univers, un refuge intérieur. Soit on a le réflexe de le préserver, on arrive peut-être à s'en sortir quand on vit dans un moment très dur, comme un crime de masse, un crime génocidaire. C'est quand on doit faire face au processus de déshumanisation, par exemple. Plus la déshumanisation est là, présent, il vous écrase, vous oppresse, plus il faut que vous ayez le réflexe d'aller au fond de vous-même pour puiser le moindre souvenir qui fait de vous un être humain.
Donc cette cabane qui est très habitée, hein, on y voit un empilement de vaisselle, de réveils, de valises, de machines à écrire, c'est une forme de résistance, de jardin secret qui fait résistance contre la dictature.
Ouais, exactement, oui, c'est machine à écrire, c'est un disque qui tourne, c'est les livres, c'est les images, c'est tout ce qui est de l'ordre qui fait un homme civilisé.
Est-ce que vous diriez, vous, que l'imaginaire vous a sauvé dans cette expérience totalitaire que vous avez vécue si jeune?
Exactement, oui, l'imaginaire, puis la poésie.
Mais de quelle manière? Puisque tout était interdit, les livres étaient interdits.
Oui, on ne peut pas interdire au fond de ma tête. On n'a pas encore réussi à inventer quelque chose qui va jusqu'au fond de notre conscience, mais peut-être ça arrivera. Vous savez, tout ce que j'ai décrit, tout ce qu'on a vécu, d'autres gens parlent avant nous, dont même Orwell parle avant nous déjà. Comment on contrôle un esprit humain? Le langage, par exemple, de Novlang, ou le langage du Troisième Reich ou le langage des Khmers Rouges. C'est des langages qui agissent d'abord, un langage de violence. Au Rwanda, on dit on coupe des gens. On ne dit pas tuer, on dit coupe d'ailleurs. On va couper dans les marais. En Cambodge, on dit comme texte, ça veut dire...
Détruire.
Détruire ou réduire en poussière. C'est plus que tuer, c'est pas tuer, c'est aller au-delà de l'être, au-delà du physique. Et tout commençait par le langage, en fait.
Pour en sol majeur, à 8 minutes 23 de votre documentaire « L'exil Ritipan », on voit des archives d'écoliers chinois répétant les préceptes du petit livre rouge. Et puis tiens, voilà une chanson cambodgienne avec Robin Strass et guitare électrique qui nous raconte le Cambodge des années 60. Et puis les archives nous promènent dans le Phnom Penh d'une vie normale avec ses bus et ses passagers qui lisent le journal. Et puis coup d'arrêt sur le 17 avril 1975, avec les Khmers Rouges qui arrêtent, ordonnent, tuent. Retour enfin sur la cabane en bambou et zoom sur des assiettes de riz poisson laissées inachevées. Pour dire qu'il y a évidemment un mental très fort derrière ce documentaire, mais un scénario très construit.
Oui, mais en même temps ça se construit dans ma tête, quoi. Je respecte énormément un cinéaste qui s'appelle Chris Marker. Mm-hmm. Et je ne fais pas la même chose. Mais il m'a appris un principe qui est cher, être libre. Être libre avec les archives, être libre avec la poésie, être libre avec la langue, les mots. Et en fait, quand je fais un film, je n'ai pas de scénario. J'aime que les images et les sons et la parole habitent ensemble. Et non pas les commentaires pour souligner l'image ou la musique pour exprimer l'angoisse et tout ça, c'est pas...
Oui, on n'est pas dans l'illustration du
non,
tout.
Non, non, pas du tout.
Quel rôle elles ont alors, vos archives?
Les archives, pour moi, ont une âme. Je vois les archives comme quelque chose de vivant, pas du tout... Quand on dit archives, les gens ont l'impression que l'image noir et blanc, poussiéreux et tout ça. On colorie même maintenant, des gens colorient des archives. Mmh. Pourquoi pas? Mais moi, j'aime bien ces images noir et blanc de cette époque-là. Mais plutôt les petits détails, voilà. On lisait. Après, on lisait plus. On voyageait. Après, on voyageait plus. Je crois que l'image porte avec lui une signification, une deuxième vie, et qu'on peut tout à fait puiser derrière cette image-là et lui donner un sens particulier à cette nouvelle... forme,
oui.
Une nouvelle vie. Quoi.
Mais alors, quelle signification a la présence de ce personnage, de ce jeune homme qui est témoin, qui regarde ses archives comme un témoin extérieur?
Bah, il vivait cette archive-là, parce que ça représentait les Khmers Rouges. Et les archives, c'est le jour. Lui, il ne peut plus vivre le jour. Le jour, il est sur le camp de travail. Sur... La nuit, c'est l'angoisse, c'est aussi le rêve, c'est aussi le moment le plus intime, c'est aussi la mort. Mais il est dans cette nuit-là et c'est à lui de puiser au fond de cette obscurité les quelques lumières avec lesquelles il peut s'accrocher et vivre.
Donc quand vous parlez d'exil, de quel exil vous parlez?
Dans ce film, il y a deux étapes. Il y a un exil d'abord intérieur, c'est exil au fond de soi, c'est un exil plutôt comme forme de résistance. Puis après, finalement, on a rencontré le vrai exil qui est Roissy Charles de Gaulle, avec un laissé-passer.
Il y a pire.
Oui, voilà, il y a pire. Mais
bienvenue.
Bon, voilà.
Il faut accepter la fragilité, la faiblesse, l'eau des étangs, le vent grêle qui se moque de l'ennemi intérieur, armé ou non armé. Qui croit à la révolution est un maître, qui chante la révolution est un enfant. Je suis cet enfant. C'est ce que dit à un moment donné la voix off d'exil, Ritipan. Vous-même, vous avez donc été cet enfant. Mm-hmm. Est-ce que vous nous parliez de ce mot révolution qui a l'air de toujours circuler positivement en vous, mais est-ce que vous avez cru entre 75 et 79, tout petit, en la vérité prolétarienne?
Oh, je peux pas dire ça. Parce que
c'était pas vos mots, bien sûr.
C'était pas mes mots, mais au début, en 75, c'était séduisante, quoi. Les mots des révolutions, ils ont une forme poétique, une forme même de romantisme révolutionnaire. Ça résonne dans mon adolescence.
Mais vous aviez une vie confortable, si j'ose
pas,
dire.
Pas tant que ça. Mon père, les Cambodgiens dans notre génération le connaissent bien. C'est quelqu'un assez intègre. On n'est pas du tout riche, on est plutôt de classe moyenne. Nous, on élevait des poules pour pouvoir avoir des œufs. Et on plantait tout à la maison, des citronnelles jusqu'aux toutes sortes de légumes. Mais mon père était une famille qui a 9 enfants et que c'était le seul qu'on envoyait faire l'école, quoi, faire les études. Quoi.
Ça a été l'élu.
L'élu, voilà. Pourquoi lui, j'en sais rien.
Alors, vous qui n'aimez pas le mot traumatisme, je crois que vous lui préférez l'expression chagrin sans fin, vous donnez à comprendre dans ce livre, L'élimination, votre parcours de cinéaste et de survivant. C'est un récit où vous racontez à la fois votre rencontre avec Douk, l'un des grands responsables de ce génocide, et votre traversée de petit Cambodgien qui en 75 devient ce qu'on appelle un 17 avril et bientôt un sans-famille.
La deuxième nuit, ma mère a demandé à mon père d'aller jeter ses cravates. Il n'y avait pas encore de fouilles. Mais la rumeur courait que les jeunes aux cheveux longs avaient été exécutés et qu'on avait promené leur tête sur des pics. Mon père a disparu dans la forêt, ses cravates à la main, et il est rentré après avoir caché son ancienne vie.
Tekom. Talisman.
Le visage de votre père qui est comme un talisman pour vous.
Oui, parce que c'est ma mère aussi, mais chaque film, j'ai parlé dans l'image manquante, était plus de mon père et dans l'exil, est plus de ma mère. Quoi. Ils sont différents. Ma mère est une économiste. Et c'est vraiment c'est elle qui gère quand même 9 enfants. Et puis mon père, c'est l'éducation. Quoi. C'est l'homme de lettres, l'homme de la poésie. C'était Prévert, sans que je comprenais, c'était Prévert. Parce que ma génération, on n'était plus très francophone. Et lui, il parlait le français avec mes grands frères. Quoi. Et puis il aimait la poésie. Et puis il disait « cheveux noirs caressés par le vent ». Et tout ça, et moi je comprenais pas. Mais je gardais le cheveu noir caressé par le vent.
Qui est un poème de Prévert.
Oui, et après, quand dans les Khmer Rouges, je l'imitais. Parce que je sentais qu'il y a quelque chose qui est à lui, quoi, qu'on ne peut pas le prendre. Ça a l'air rien aujourd'hui, mais ça m'aidait à vivre.
Ah non, c'est pas rien.
Ouais.
Parce que ce que met en place l'ANCAR, l'organisation, qui est le Parti communiste avec Pol Pot à sa tête, c'est la destruction justement du nouveau peuple. Alors il faut nous expliquer, votre père est mort car il est à ce moment-là ce qu'on appelle un 17 avril. Qu'est-ce que c'est qu'un 17 avril ?
Un 17 avril où les nouveaux peuples, ce sont ceux qui vivaient dans une zone qui n'était pas sous le contrôle des Khmer Rouges. Ça peut être un étudiant, peut être un instituteur, ça peut être les dirigeants.
Les lettrés, les intellectuels.
Voilà, tout ça. Même les pauvres quoi, qui vivent dans les... Alors, si vous n'êtes pas dans les zones libérées, pas les Khmer Rouges avant, bah, vous êtes le nouveau peuple ou le peuple du 17 avril. Moi, je n'ai pas du tout l'impression qu'on me considérait comme un Cambodgien ou comme un Khmer. C'est une autre identité, une autre... ou sans identité,
oui.
Un peuple à part et à qui on peut tout faire. Donc, j'ai plus mon nom, j'ai pas le droit d'aller à l'école, évidemment. J'ai plus de communication, il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus rien. J'ai pas l'impression que j'ai le droit d'appartenir à mon pays, à mon peuple. Quoi.
Non, vous appartenez à l'ANCAR. Donc, en fait, le projet, c'est que désormais, l'ancien peuple, les paysans, doit rééduquer le nouveau peuple. Et pour ça, l'ANCAR prévoit une série de commandements et de slogans. Il y en a un dont vous vous souvenez personnellement, Ritipan, qui dit « Renonce à tous tes biens, à ton père, à ta mère, à ta famille ».
Oui, quand vous renoncez à tout ça, qui êtes-vous ? Vous n'êtes plus rien, vous êtes peut-être le fils de l'ANCAR, mais qui c'est l'ANCAR ? on ne sait pas qui c'est l'Anka. On entend l'Anka, mais tout le monde peut être Anka. Le chef du village peut être Anka, le chef de la commune peut être un Anka, mais l'Anka, c'est qui? On ne voit jamais Anka, mais l'Anka, il peut tout faire. Il peut exécuter, il peut condamner, priver de quelqu'un de sa liberté, d'une nourriture, d'un repas. C'est quelques grains de riz qui vont maintenir en vie.
Justement, votre foi, vous parlez du bol de riz, vous décrivez des scènes terrifiantes de famine qui durent des années. Votre foi en l'image, vous racontez qu'elle naît un jour très particulier, justement à partir d'une image que vous arrivez à ressentir, une image vivante pour vous, celle d'un bol de riz laissé par votre père qui vient de mourir.
Lui, il a une conception d'être un homme libre qui est trop violent pour moi. Il nous a quittés, quoi. Il a refusé de manger tout ce qui ne ressemble pas à nourriture pour les hommes. Puis, c'est à nous de manger ça. Et je trouve ça violent, quoi. Deut me raconte lui-même que son institutrice a été violée avec un morceau de bois par un des bourreaux. Un fait très grave pour lui, car ce n'était pas une torture codifiée. Je pense à la jeune femme qui fit la classe, autrefois, à un enfant pauvre et brillant. Je pense à l'enfant qui fut envoyé au collège, à Siem Reap, puis à Phnom Penh. Je pense à l'enfant qui plus tard enseigna les mathématiques dans un collège à Skoon. Fille de la prison, rejoignit les guerriers, devint chef de la sécurité du Kampuchea démocratique. Je pense à son institutrice qui fut frappée, électrocutée, affamée pendant des jours et des semaines. Je pense au bourreau qui força son vagin avec un morceau de bois. Je pense à son mari, emprisonné au même moment à S21. Qu'on obligeait à manger ses excréments. Je pense à la femme qui avoua tout, puisque c'était la règle. Elle confirma qu'elle était membre du KGB, de la CIA ou des services secrets vietnamiens. Elle donna des noms de traîtres et d'agents. Elle dénonça tout son réseau, puis elle fut exécutée, puisqu'elle avait trahi son peuple et son pays. Elle n'était plus une femme, mais un déchet.
S21, la machine de mort Khmer Rouge.
On m'a arrêté à Battambang. On m'a interrogé, torturé à l'électricité. Après une semaine, ils ont fait l'appel. On était une trentaine. Ils nous ont mis dans deux camions, ferroquiers, liés les uns aux autres. Je me disais, c'est fini, je n'ai plus de vie à vivre. Les camions ont roulé longtemps, jusqu'à la nuit. J'ai vu une lumière électrique qui pénétrait dans le camion. J'ai pensé que c'était Phnom Penh. C'était vrai. J'ai entendu les jeunes gardes crier de joie. Des loups devant leur nourriture.
Shoah de Claude Lanzmann.
Die Gaswagen sind hier reingekommen. Daher waren zwei große Ovens.
Les camions à gaz arrivaient là. Il y avait deux immenses fours.
Und nachher haben die hier reingeschmissen in dem Ofen.
Et ensuite, on jetait les corps dans ces fours.
Und das Feuer ist gegangen zum Himmel.
Et les flammes montaient jusqu'au ciel.
Das war furchtbar.
C'était terrible.
Das kann man nicht erzählen. Niemand kann das nicht.
On ne peut pas raconter ça. Personne ne peut.
Ich glaube nicht, dass ich da hier.
Je ne crois pas que je suis ici.
Das kann ich nicht glauben, also ich bin hier noch einmal.
Non, cela, je ne peux pas le croire.
Das war immer so ruhig hier.
C'était toujours aussi tranquille ici.
Immer.
Toujours.
Wenn die haben da jeden Tag verbrannt,
quand on brûlait chaque jour 2000 personnes,
Juden.
Des juifs,
war auch so ruhig.
C'était également tranquille.
Niemand hat geschrien.
Personne ne criait.
Jeder hat seine Arbeit gemacht.
Chacun faisait son travail.
Es war still, oui.
C'était silencieux, paisible.
So wie jetzt, so war es.
Comme maintenant.
Pour un sol majeur, donc sur RFI, deux documentaires sur les grands crimes du XXe siècle. D'un côté, votre doc à vous qui a marqué tellement, mon Dieu, S21, la machine de mort Khmer Rouge, Ritipan, que vous avez réalisé en 2002. Et puis de l'autre, Shoah, de Claude Lanzmann. Pour dire que la méthode de travail de Claude Lanzmann vous a inspiré, de quelle manière ?
Le film de Claude Lanzmann, je l'ai vu il y a longtemps. Et après... Je n'ose plus le voir pendant que je faisais le film, tellement il est puissant et fort. J'avais justement peur qu'il m'influence. Mm-hmm. Je voudrais qu'il soit une source de rigueur et non pas influencé, parce que ce n'est pas les mêmes crimes, ce n'est pas la même histoire. Mm-hmm. En fait, j'ai du mal à faire du cinéma au début, parce que je ne suis pas du tout éduqué dans le cinéma, quoi. J'étais pas du tout un rat de cinémathèque, comme on dit, quoi.
Je suis devenu après. Menuisier, vous étiez.
Voilà, je voulais faire un menuisier. Je voulais travailler un boulot de taiseux, quoi. Parce que je voulais pas en parler de tout ça.
Et oui, vous avez eu du mal, comme tous les survivants à un génocide ou une tragédie.
Oui. On n'a pas les mots. On n'a pas les mots justes pour le dire. Et comment le dire? On ne pourra jamais tout dire, on ne pourra pas. Et j'ai tellement de choses à dire. Je me sentais un peu proche de Primo Levi au début. Et si je dis, personne ne croira. Et puis, quand je suis arrivé en France, j'ai écrit une lettre à Kurt Waldheim. Je ne savais pas qui était Kurt Waldheim à l'époque.
Redites-nous alors, qui c'est, puisque vous le savez.
C'était le secrétaire général de l'ONU à l'époque, mais c'était un ancien officier nazi aussi. Quand je suis arrivé en 1979, je lui ai écrit... Et je ne savais pas du tout que les Khmer Rouges siégeaient encore à l'ONU à l'époque. Donc j'ai écrit à Kurt Waldheim en disant que voilà, pourquoi vous m'avez laissé, vous nous avez laissé 4 années comme ça, quoi. En fait, en gros, c'était ça. Et je n'ai jamais reçu de réponse, évidemment.
Alors vous avez pu approcher et filmer pendant des mois Douk, donc directeur de la prison S21 à Phnom Penh, qui était cette véritable machine de mort ou périr. Selon les archives, environ 12 380 personnes. Douk est condamné, je le rappelle, depuis 2012 à perpétuité pour crimes contre l'humanité. Alors la grande question, c'est ça. Est-ce que ces réponses ont été des réponses à vos questions à vous, Ritipan ?
Douk, c'est quelqu'un qui vous cite Alfred de Vigny et qui est prof de mathématiques, qui aime la Joconde.
Il y voit un visage de femme khmer.
Voilà, et c'était vraiment un cultivé, quoi. C'est pas un crime commis par un abruti sauvage, non. C'est un être cultivé, un être comme vous et moi, quoi. Et donc, lui, il partait du principe qu'il était là pour l'État. Il est responsable, mais pas coupable, comme disent certains. Il m'a même dit que j'aurais pu être moi aussi directeur de S21.
Ah oui?
Ouais, c'était assez violent. Hein. C'est une confrontation qui nous a coûté cher tous les deux, je pense. Peut-être lui moins que moi, parce que lui, c'est un manipulateur en chef. Mais d'être aussi près de lui, aussi longtemps, c'est une expérience indescriptible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intention, déjà, et non pas le crime, même l'intention du crime. Pourquoi le crime? Et ça, elle explique assez bien. Il a cru vraiment... Il s'est un révolutionnaire romantique, je dirais. Il était dans ce romantisme-là, et puis à la fin, il fallait toute chose, toute réalité, rendre dans ce romantisme d'égalité parfaite, de la liberté pour tous, etc. Bon, c'est... Et Doc adore vous écouter sur RFI. Ça se trouve qu'il est en train de nous écouter. Et c'est ça. C'est quelqu'un qui pratique le français, qui écoute les radios. Et le mystère du mal, il est impénétrable.
Alors, on va aller fouiner en sol majeur dans 2 minutes dans d'autres archives. Celle qui concerne l'histoire coloniale de l'Indochine, avec vous, Ritipan. Mais avant, un petit peu de musique cambodgienne pop. Avec un extrait de la bande-son d'une de vos fictions d'ailleurs, Un soir après la guerre. C'est l'histoire de survivants du régime de Pol Pot qui ont du mal à vivre leur histoire d'amour. Ça, c'est la question aussi. Est-ce que c'est difficile de raconter l'amour après Pol Pot?
Il faut apprendre à vivre l'amour. Il faut apprendre à tout vivre d'ailleurs. Quand on sort d'un régime totalitaire comme celui de Pol Pot, extrême violence, il faut tout apprendre. à aimer, à vivre, à goûter des nourritures, à vivre la liberté.
Bien longtemps, dans un temps si lointain que les arrière-grands-parents de nos arrière-grands-parents n'ont pas pu le connaître, notre pays s'appelait la Gaule. Il était couvert d'immenses forêts. Ses habitants, qui s'appelaient les Gaulois, étaient de haute taille, et ils portaient de longues moustaches qui leur donnaient un air guerrier. Ils aimaient par-dessus tout à entendre de beaux discours et à se battre. Ils étaient si braves qu'ils disaient « Nous ne craignons qu'une chose, c'est que le ciel tombe sur nos têtes. » C'est pourquoi ils allaient parfois guerroyer dans les pays lointains.
N comme nos ancêtres les Gaulois.
Qui dit ancienne colonie française dit nos ancêtres les Gaulois, cette expression qui était censée verser un sentiment patriotique dans ces âmes lointaines. Et c'est pour accueillir ce somptueux documentaire réalisé en 2015, La France est notre patrie, qui sort donc en DVD et qui évoque l'Indochine du début du XXe siècle jusqu'à la chute de Dien Bien Phu. Quel est le principe de ce documentaire, Etipan?
Je n'étais pas colonisé. Plutôt, c'est un sujet qui m'intéresse, mais je n'ai pas de moteur de mon travail. Mm-hmm. Mais à un certain moment, je crois qu'il y avait le président Nicolas Sarkozy avec son truc de Dakar.
Le discours de Dakar.
Voilà, moi, j'appelais son truc de Dakar.
Et les Africains ne sont pas rentrés dans l'histoire.
Oui, mais là, vous citez qu'une phrase.
Si
on avait le temps de tout lire... C'est plus violent que ça.
Vous avez été choqué donc par ce discours de Sarkozy.
Oui, j'étais choqué. Et puis, après coup, il y a les députés qui voulaient aussi voter sur une loi des bienfaits de la colonie, je ne sais pas quoi.
Les bienfaits de la colonisation.
Voilà. Et moi, je dis, attention quand même, on ne va pas remuer comme ça les choses d'un seul point de vue. Alors, je donne mon point de vue à moi et... Et quand je commence à faire le film, je ne sais pas comment en faire. Parce que je me rends compte qu'on n'avait pas le droit à voir l'image. Ce n'est pas nous qui n'avions pas le droit à avoir de caméra à l'époque. Donc, il fallait utiliser les images des autres. Et là que les archives deviennent intéressantes. Parce qu'il y a l'image, puis il y a toute l'ambiance, toute l'idée qui conditionne le filmeur à comment filmer. Et ça, c'est intéressant de revoir ces archives et de donner un autre sens de lecture avec l'origine indigène que je suis.
Que nous sommes.
Que nous sommes. Et que voilà, l'indigène va essayer de voir votre image et faire sentir ce que les origines d'indigènes pensent aussi. Voilà, c'était pas du tout un truc anticolonialiste et tout ça, quoi. C'était, on a une histoire collective, je voulais juste dire ça. Et quand on nous apprend la langue à quelques ans, c'est parce qu'on a besoin les contremaîtres aussi. Mais c'est tout, hein. Ce que je veux dire, c'est pas du tout polémique ou quoi que ce soit. Mais, juste remettre des choses
en place. Long quand même sur votre regard à vous sur cette question de la colonisation. Donc il n'y a aucun commentaire et ça se passe un peu comme dans les films muets. Vous ponctuez les images de cartons sur lesquels on peut lire les sentences, je dirais, d'un certain Legendre, médecin de l'époque, par exemple. L'indigène adopte le mode de vie de sa patrie lointaine. Et à l'image, on voit le notable indigène assister aux courses hippiques. Là où il n'y avait que pauvreté et ignorance, notre patrie offre la liberté et le savoir. Et à l'image, on a les premières usines avec des centaines de petites mains qui fabriquent la soie. Chacun choisit sa petite épouse. Et à l'image, on a des marins qui embrassent goulûment leur petite indochinoise. Voilà, pour dire en trois exemples comme ça que vous montrez avec un certain montage votre point de vue, parce que je lis régulièrement dans la presse que finalement vous souhaitez, Ritipan, que chaque spectateur se fasse sa propre opinion sur la colonisation, mais c'est un petit peu plus fin que ça. Vous avez votre propre opinion à vous sur cette question.
Oui. Moi, je pense que
n'a pas compris Douk, qui s'est laissé filmer par vous dans S21. Ouais. Il pensait qu'il pourrait vous manipuler, sauf que vous aviez un pouvoir, celui de l'image.
Oui, c'est lui l'image, c'est le montage, surtout dans ces films d'archives, parce que le montage, c'est l'affirmation de mon point de vue. Si je prends que l'image des cartons de l'époque, de Dr. Legendre, par exemple, le fameux Dr. Legendre, sur qu'est-ce que c'est, les jaunes, les noirs, tout ce que c'est, les blancs, par exemple, c'est un médecin, un médecin de la colonie, quoi. Et je montre l'image, quoi, je dis, voilà, il y a au niveau éthique et moral, il y a disparité énorme, il y a un fossé énorme, quoi.
Ces archives, Ritipan, qui vous ont permis de réaliser La France et notre patrie, elles viennent d'où ?
Ils viennent partout, ils viennent de l'armée, de ECPAD, c'est un truc de l'armée française qui stocke des images, qui fait des images depuis longtemps. Il ne faut pas se méprendre, hein. L'ECPAD ce n'est pas les militaires qui attaquent, quoi. C'est une vraie institution de mémoire, quoi.
Alors évidemment la question de la patrie est aussi comme celle de la mémoire, enfin, est périphérique à votre démarche de cinéaste, Ritipan. Il s'agit pour vous sans doute de la reconstituer au Cambodge. Elle en est où, cette question de la patrie, au pays ?
Je crois que quand on passe à travers un crime de masse tel qu'un génocide, la première chose qui atteint, c'est l'identité et la mémoire. Et ce qu'il faut reconstruire d'abord, cette identité. À mon échelle, à moi, qui est cinéaste dans mon domaine, il n'y a presque plus d'images.
Il n'y a presque plus d'images de...
De l'époque, avant les Khmer Rouges ou pendant les Khmer Rouges. Mais les Khmer Rouges font fabriquer eux-mêmes leurs images. Ça, il en reste. Il fallait les sauver, il fallait les numériser. L'INA, par exemple, ou le CNC m'ont donné un coup de main pour numériser, prêter. J'emprunte les images. Certaines images ne nous appartiennent pas. On emprunte. Et moi, je pense qu'il faut ouvrir ces images aux pays colonisés avant ou pour les partager cette mémoire, si on a une mémoire commune. Il faut construire notre identité.
Voilà. Ça veut dire quoi, reconstituer cette identité ? Est-ce que vous-même, vous diriez que vous avez perdu cette identité khmère ?
Vous ne savez plus qui vous êtes. Moi encore, j'ai mes 13 ans avant les Khmer Rouges. 13 années avant. Mais imaginez les 30 ans d'aujourd'hui. Ils ne savent plus. Ils ne connaissent plus des choses. Il faut les nourrir, les ramener. On ne peut pas développer un pays sans culture. Puis les enfants qui arrivent disent « Mais qu'est-ce qui s'est passé alors ? Pourquoi mes grands-parents ne sont plus là ?» Mais il faut trouver des mots. Et cette nouvelle génération de jeunes, les mots ne suffisent plus parce qu'ils vivent dans l'image. S'il n'y a que des phrases sans image, ils ne croient pas. D'où nous, par exemple, au Sambopana, on fabrique des applications pour donner l'histoire qui est écrite par les jeunes historiens du pays. Hein.
Vous pourriez nous faire voir, là, puisqu'on est ensemble en sol majeur, vous avez votre téléphone.
Oui, c'est...
Je voudrais bien voir à quoi ressemble cette application. C'est très important parce que vous travaillez sur la notion de transmission de cette histoire, de cette tragédie pour les jeunes générations.
Oui.
Montrez-nous.
Bah, vous avez un truc sur la Khmer. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de l'argent pour traduire en français parce que la France m'a abandonné.
Ah bon?
Non, il n'existe qu'en Khmer qu'en anglais. Voilà, c'est comme ça, l'ambassade de France a décidé de ne plus soutenir. Bon, voilà, ne plus
c'est
soutenir
dit.
Depuis deux ans. Voilà, vous avez une application qui s'appelle Khmer Rouge History que vous pouvez downloader.
Alors moi, je suis Android, je suis tout ce que vous voulez,
voilà,
parce
vous
que
avez,
je voudrais qu'on entende.
Vous avez au
s'il
store.
Vous plaît, Ritipan. Donnez-nous vos yeux, là.
Voilà, vous avez des photos des camps de travail, de l'évacuation de Phnom Penh. Et puis, vous entendez les chapitres différents. C'est l'histoire, comment c'est le Khmer Rouge est formé jusqu'à l'évacuation. Et voilà, vous avez des sons, des chansons, des bruits de travail et tout ça. Et puis, vous avez des chapitres différents. On raconte l'histoire des Khmer Rouge, quoi. C'est très bien fait, quoi.
Et cette application, elle fonctionne
Fonctionne. On a déjà 40 000 téléchargements.
Ouf.
Déjà.
Mm-hmm.
Les profs, ils peuvent télécharger. Et ils peuvent enseigner les étudiants avec ça, quoi.
Ah, c'est magnifique. Là, on est dans une nuit de Phnom Penh. C'est-à-dire que c'est vous qui avez tout conçu.
Non, j'ai l'idée. Et puis, moi, j'aime bien que les jeunes le fassent eux-mêmes. Donc, c'est une jeune équipe d'historiens, de techniciens, qui font eux-mêmes.
Alors, comme c'est en Khmer, je suis perdue. L'ambassade de France, c'est quand elle veut.
K comme karma.
Comment on dit karma en Khmer?
Karma. L'action.
On vient d'entendre un extrait de votre S21, la machine de mort Khmer Rouge, dans lequel le père d'un ancien tortionnaire, d'un ancien geôlier, s'inquiète du karma du pays. Il dit à son fils, les Khmers disent, les os crient, la chair appelle, il y aura un mauvais karma, qu'en penses-tu?
Le fils ne répond pas, parce que si on raisonne sur ce schéma, il ira en enfer pour je ne sais pas combien d'années, pour chaque vie. Donc il ne pourra pas répondre.
Alors je ne sais pas quelle place la notion de pardon a dans votre cœur bouddhiste, Ritipan. Mais est-ce que la lecture, parce que je sais qu'il a fallu des livres finalement pour accompagner ce chagrin immense qu'est le vôtre, est-ce que la lecture d'un Primo Levi vous a aidé?
Énormément. Ou un René Char.
Il vous a aidé, mais la fin de Primo Levi vous inquiète. Il s'est suicidé, Primo Levi.
Pas mal de gens, malheureusement, comme Anthelme.
Le mari de Marguerite Duras.
Qui, quand même, passait pas là, quoi. Moi, je l'ai vécu, la mort de Primo Levi, avec beaucoup de colère quand j'ai appris. J'aurais aimé qu'il vive encore, comme Marceline Loridan l'a fait jusqu'au bout.
Une dernière question, est-ce que, je sais que vous faites des allers et retours comme ça entre Paris et Phnom Penh, est-ce que Paris est toujours un refuge pour vous, comme le ventre d'une mère?
Oui, Paris, c'est que tout le monde le sache, que les Français le sachent. La France est un extraordinaire pays. Il y a une génie française, il y a la langue française, qui est une langue de refuge pour moi au départ, une langue de résistance aussi. Et aussi les philosophes, les Lumières, malgré tout. Moi, cet humanisme m'intéresse. Et que voilà, je considère toujours que la France est un pays qui a un rôle important dans l'évolution du monde.
Et dans votre évolution à vous?
À moi, oui. Moi, je continue à lire et à suivre tout ce qui se passe en France.
Mmh. La révolution, enfin, c'est moi qui parle de révolution des gilets jaunes.
Oui, ça m'intéresse.
Ça vous intéresse.
Ça m'intéresse, oui.
Est-ce que Phnom Penh a fini par vous adopter, finalement, parce que vous avez longtemps été perçu comme un Cambodgien de l'étranger par Phnom Penh?
Oui, c'est des petites incompréhensions au début. Oui, maintenant, oui, moi, les nouvelles générations acceptent mieux ce que je suis. Moi, je n'ai pas choisi de m'exiler, hein. C'est l'histoire qui le fait. Il ne faut pas confondre ça. Je n'ai pas fui le pays. J'ai décidé d'aller ailleurs pour un certain moment. Ce n'est pas pareil.
Vous avez décidé de vivre ?
Non, d'aller ailleurs. J'ai besoin d'aller ailleurs. Et dès que je me sentais utile et prêt pour faire quelque chose comme autre, je suis rentré très vite. Donc, dès 88, 89 déjà, je suis sûr que ce n'est pas long, 10 ans comme absence. Et maintenant, les jeunes, ils me connaissent mieux, ils m'appellent oncle. Je travaille beaucoup plus avec les jeunes, maintenant, moi, c'est l'oncle, quoi.
C'était important pour vous d'être l'oncle, là-bas ?
Moi, je pense, oui, qu'il faut renouer, il faut construire ce pont entre d'une génération et une autre. Je crois que ça me fait énormément plaisir quand il vient voir l'oncle et discuter avec l'oncle des techniques, du cinéma, de l'esthétique et tout ça. Parce que je n'ai pas œuvré tout ça pour moi. Hein. J'ai fait tout ça en pensant sincèrement à cette nouvelle génération. Je n'ai pas envie de transmettre ce traumatisme ou ce chagrin sans fin à eux. Quoi. Et je n'ai pas trouvé d'autres moyens qu'en parlant. Moi, je pense que parler ne garantit pas la paix à votre âme, mais je n'ai pas d'autre choix. Et je pense qu'en parlant, les autres peuvent approprier cette histoire qui leur manque et avancer dans leur vie.
En sol majeur, @rfi.fr.
Deux idées de présent,
ouais.
Pour cogiter en famille. L'exil et la France est notre patrie, sorti donc en DVD chez Epicentre. Merci Ritipan. Je ne suis pas sûre que vous soyez très fan de musique. Je ne suis pas sûre.
Aussi.
Quand même.
Ce qui est, c'est Nietzsche hein, qui disait ça, la vie sans musique, ça ne vaut pas la peine.
On est d'accord. Donc on va vivre avec les loups pendant 2 minutes de Serge Reggiani. C'est une chanson qui vous rappelle quelque chose ?
Formidable chanson. Pour moi, c'est les nazis ou les Khmers rouges quoi, qui sont rentrés dans la ville.
Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits ? Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit... Un chien hurle. Regardez bien Jean de Denfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups étaient loin de Paris. En Croatie, en Germanie, les loups étaient loin de Paris. J'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit que le dès que ça flaire une ribaille.
En sol majeur avec Facebook, Twitter et en podcast, n'hésitez pas sur notre application Pure Radio, il paraît que ça marche bien, avec notre équipe, Sophia Bédard, Laura Pinto, Thibaut Baduel, Yasmine Chouaki. On vous retrouve demain avec Stéphane Casticas. À demain.
Les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire.